Chapitre 23e. Oh, mon père, applaudissez-vous d'avoir un fils qui vous aime. C'était pour s'entretenir avec vous que Phoblas quittait une jolie femme, et Phoblas ne sentait que le plaisir de pouvoir enfin vous donner de ses nouvelles. Je me dispense de rapporter ici tout entière la lettre tendre et respectueuse que je lui écris. Maintenant que je l'ai cachetée et que j'ai mis l'adresse à M. de Bellecour, qu'il me soit permis d'examiner un peu mon petit appartement. Cette porte donne dans la chambre à coucher de la comtesse, cette autre sur un escalier dérobé qui descend dans la cour. Elle est commode, ma petite chambre. Si, dans la nuit, il me prenait fantaisie d'aller visiter Madame de Lignol, je n'en ferais rien. Bah, sois tranquille, ma Sophie. Couche-t-il avec elle, Monsieur de Lignol? Que m'importe? Quelle idée me vient là? Le grand mal, après tout. Je n'y mets pas un vif intérêt. C'est simplement la curiosité. Oui, mais cependant, cela me tourmente. Je voudrais bien savoir si les époux font lit à part. Je ne vois qu'un lit dans la chambre à coucher de madame. Mais il est grand et il se pourrait que monsieur n'eût pas son appartement séparé. Comment faire pour m'en instruire? Parbleu, guettez le moment et regardez par le trou de ma serrure. Bon, il n'est que 7 heures. Ils ne souperont pas avant 10, ils ne se retireront point avant minuit. J'attendrai là 5 heures d'horloge? Je meurs de fatigue. Ma foi, non. Ma charmante femme, je ne m'occuperai que de vous, et la preuve, c'est que je vais me coucher. Je le fis aussitôt, et je m'endormis si bien, que le lendemain, Madame de Lignol fut obligée de me faire appeler pour que j'assistasse à son lever. « Comment avez-vous passé la nuit, mademoiselle de Brumont ? » me demanda-t-elle avec vivacité. « Parfaitement bien. Et, madame, j'ai mal dormi. » Madame a pourtant le teint vermeil et les yeux brillants. « Je vous assure que j'ai mal dormi, » répondit-elle en souriant. « C'est peut-être la faute à monsieur le comte ? Comment cela ? » « Répondez donc, mademoiselle, comment cela ? » « Madame, expliquez-vous, je veux savoir. » Je prie madame de recevoir mes excuses. Je lui ai peut-être déplu par cette plaisanterie, pourtant innocente. Point du tout, mais je ne l'entends pas. Expliquez-la-moi. Et dépêchez-vous, car je n'aime pas à attendre. Madame, mademoiselle, vous m'impatientez. Parlez, je le veux. Madame, je vais vous obéir. Il est vrai que monsieur le comte atteindra bientôt la 50aine. Mais madame la comtesse est toute jeune, je crois. J'ai 16 ans. Il est vrai que monsieur le comte paraît d'une santé bien faible, mais madame la comtesse est si jolie. Sans compliment, le trouvez-vous? Je ne fais sûrement que répéter à madame ce qu'elle a coutume d'entendre. Vous êtes tout à fait polie, mademoiselle de Brumont, mais revenez à ce que vous me disiez d'abord. Volontiers. Il est vrai que monsieur le comte est le mari de madame, mais il n'y a pas longtemps que madame la comtesse est sa femme, je pense. Il y a 2 mois. J'ai conclu de tout cela que M. de Lignol, encore amoureux de sa charmante épouse, avait pu, eh bien, dites ce qu'il avait pu, venir cette nuit chez madame. Jamais monsieur ne vient chez moi la nuit. Ou bien hier au soir, y rester un peu plus tard qu'à l'ordinaire et tourmenter un peu la comtesse. Me tourmenter, à quoi bon? Quand je dis la tourmenter, j'entends lui faire ses caresses qui sont très permises entre 2 époux. Quoi? Ce n'est que cela? Quoi, vous aussi? Vous croyez que je ne dormirai pas de la nuit, parce que le soir mon mari m'aurait embrassé 5 ou 6 fois? Je ne sais par quelle manie tout le monde me tient ce singulier propos. À ces mots, la comtesse passa avec sa femme de chambre dans son cabinet de toilette et me dit qu'elle allait bientôt revenir. Restée seule, je me mis à réfléchir sur la conversation que nous venions d'avoir ensemble. Cette femme m'étonne. Aurais-je mal joué l'embarras? S'amusait-elle à mes dépens? Non. Elle parlait sérieusement. Elle avait l'air de l'innocence. C'était le ton de la candeur. Quoi donc? Une jeune personne, après 2 mois de mariage, se pique-t-elle de n'être pas plus instruite à certains égards que 2 mois auparavant? Elle était si claire, cette phrase. C'est peut-être la faute de monsieur le comte. Pourquoi s'obstiner à ne pas l'entendre? Est-ce une manière polie qu'elle ait cru devoir employer pour repousser une plaisanterie qui ne lui plaisait pas? J'en doute. Impérieuse et vive comme elle est, elle m'eût simplement dit cela me déplaît. Et tout au contraire, c'est elle qui exige une explication difficile, que j'hésitais à lui donner, dont elle affecte encore de ne pas saisir le véritable sens, et après laquelle, du ton le plus naïf, elle me fait cette équivoque réponse. « Vous croyez que je ne dormirai pas de la nuit parce que le soir, mon mari m'aurait embrassé 5 ou 6 fois ?»« Ma foi, madame la comtesse, comment l'entendez-vous ? » ?»« J'avoue qu'à mon tour, je m'y perds. J'avoue que je ne puis concilier ensemble votre état de nouvelle mariée, vos airs de vierge et vos discours, ou trop innocents ou trop libres. » Madame de Lignol, prompte à me tenir parole, revint bientôt dans un déshabillé très simple, passa dans son boudoir, où elle me pria de la suivre, et demanda le chocolat. Nous allions déjeuner quand M. de Lignol accourut en criant « Non, non, je ne ferai point de grâce, je serai inexorable. »« Eh, bon Dieu !» dit la comtesse, « quelle colère ! Jamais je ne vous ai vu dans cet état, qu'y a-t-il donc ? Comment ? Cette nuit, vous dormiez tranquille, un séducteur était auprès de vous. » « Vous ne rêvez que séducteur, monsieur, mais dites-moi donc une bonne fois ce que c'est. Sans moi, sans le hasard qui me l'a fait découvrir, ce hasard-là ne m'a rien découvert à moi. Le malheureux vous ravissait l'honneur. Quoi ? L'aurais-je souffert ? Ou ne m'en serais-je pas perçu ? Fiez-vous désormais à ceux qui se disent « D'ailleurs, pourquoi le mien plutôt que le vôtre, monsieur ?» À ceux qui se disent vos amis. Ce sont de prétendus amis qui vous l'ont donné. « Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce ? » qui vous ont répondu « Monsieur ». De sa sagesse, « Voulez-vous enfin ?» de sa conduite, « Vous expliquer ?» de son honnêteté, « Oh, je perds patience !» Et qui, le comte, dont j'observais tous les mouvements, loin de m'adresser directement aucune des apostrophes injurieuses que sa colère lui arrachait, ne me regardait même pas, et peut-être ignorait encore que j'étais là. Cependant, quelques-unes des réflexions malhonnêtes semblaient tellement applicables à ma situation présente qu'il s'en fallait de beaucoup que je fusse à mon aise. La jeune de Lignol, bouillante d'impatience, venait de se lever brusquement, avait pris au collet son mari tout étonné, et le secouant avec force, et lui disait « Vous m'avez mise hors de moi, monsieur. Il est inconcevable que depuis une heure, vous vous fassiez un jeu... « Expliquez-moi, je le veux. »« Eh bien, madame, voici le fait. Je ne sais par quelle inspiration secrète, je me suis avisé d'entrer tout à l'heure dans votre antichambre. En la traversant, j'aperçois sur le poêle une brochure ouverte, j'approche, je lis un livre affreux, madame, le plus dangereux, le plus abominable des livres, un ouvrage philosophique. Ah, nous y voilà. Le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Comment ? Un ouvrage philosophique se lira publiquement chez vous ? Tous vos laquais deviendront philosophes et vous ne tremblez pas ? Que pourrait-il en arriver, monsieur ? Des désordres de toute espèce, madame. Aussi, je viens de faire maison nette dans l'antichambre. Vous congédiez tous nos gens ? Oui, madame. Monsieur, s'écria la comtesse avec beaucoup de fierté, vous garderez pourtant cela car je le veux. À ce mot décisif, le bon époux, comme atterré, perdit sa fureur passagère et répondit très modérément « Puisque vous le voulez, madame, il faudra bien que je le veuille. Mais du moins, permettez quelques observations. « Faites-m'en grâce, monsieur, interrompit-elle, et que je ne sois pas obligé de répéter que je le veux. « Fort bien, madame, répliqua-t-il en secouant la tête, fort bien. Cela sera, mais vous verrez les suites. » Il partit et fit bien. J'aurais été fâché de rire aux éclats devant lui. Tandis qu'il nous montrait dans l'avenir des malheurs imaginaires, un malheur réel venait de nous arriver. Le chocolat s'était refroidi. Jugez de mon chagrin à moi, qui la veille, après un dîner trop court, avait encore été me coucher sans souper, et la comtesse parlait de renvoyer le déjeuner à l'office. Mademoiselle de Brumont, tremblant qu'il n'en revînt pas, le renversa proprement dans la chocolatière qu'elle fit mettre près du feu dans le boudoir même. « À la bonne heure, » dit madame de Lignol, « et faisons une lettre en attendant qu'il soit réchauffé. » Cette lettre était pour une chère tante qui avait élevé son enfance. Nous fîmes à peu près 30 lignes de compliments respectueux, à quoi nous ajoutâmes 20 lignes de confidences enfantines. Je crus que cela ne finirait pas. Désolé de voir qu'il fallait entamer la 4e page de l'interminable épître, je me permis d'observer à Madame la Comtesse que le chocolat devait être chaud. « Je le crois, » répondit-elle, « mais finissons cela d'abord. » Il est bon de vous faire remarquer tout ce qui augmentait l'embarras de ma situation vraiment douloureuse. Une malheureuse femme de chambre, que je ne pouvais me résoudre à regarder en face une seconde fois, tant elle était laide, rôdait sans cesse autour de la cheminée. Il y avait dans la constitution générale de cet individu je ne sais quoi de philosophique qui me faisait trembler pour le déjeuner. Un secret pressentiment aussi m'avertissait de sa maladresse et ses mouvements continuels me donnaient de continuelles distractions. Monsieur de Lignol, dont la lettre n'avançait pas, s'étant aperçu plusieurs fois de mes inquiétudes mal déguisées, finit par me demander avec humeur si quelque chose ne me chagrinait pas. Au moment où l'impatiente maîtresse me faisait cette question, la fatale chambrière, en farfouillant dans l'âtre, couchait la chocolatière sur la cendre. Je vis le désastre, la plume m'échappa de mes mains, mes yeux se portèrent vers le ciel, ma tête fut jetée en arrière par un mouvement presque convulsif, peu s'en fallut que je ne tombasse à la renverse. « Ah, madame, m'écriai-je, le chocolat, le chocolat !» Et la comtesse, si vive alors qu'il ne fallait pas l'être, trop douce maintenant qu'elle eût dû se fâcher, la comtesse ne jeta qu'un coup d'œil du côté de la cheminée, ramena sur moi son regard serein, et avec un sang-froid de glace, elle m'adressa cette réponse à jamais mémorable. « Eh bien, mademoiselle, qu'a de commun le chocolat avec la lettre que je vous dicte ?» Emporté par mon désespoir, je lui répondis je ne sais quoi d'assez mesuré. « Cette vivacité sympathique ne me déplaît pas trop, » répliqua-t-elle. Puis, s'adressant à l'indigne servante, elle ajouta « Dites à l'office qu'on en fasse d'autres et qu'on nous l'apporte. » Cet ordre généreux porta jusqu'au fond de mon âme le baume de la consolation. Je sentis mes forces renaître, mes idées revenir, mon style se ranimer. Et Madame de Lignol m'aidant, je finis par dire une infinité de jolies choses à la chère tante. La lettre est achevée, je ferme le secrétaire, je vois le déjeuner revenir. On apporte une petite table. 2 tasses sont placées l'une vis-à-vis de l'autre. Le liquide restaurateur est versé. La comtesse vient de s'asseoir. Je vais prendre ma place vis-à-vis d'elle. Je touche au moment heureux. Mais, en revers plus insupportable que le premier, un malencontreux laquais apporte une lettre. La comtesse aperçoit le timbre. « Besançon !» dit-elle. Elle pousse un cri de joie, se lève impétueusement, et frappant de ses 2 cuisses à la fois la table trop légère, elle me l'envoie sur les 2 jambes. Écoutez le cri que je pousse, et ne croyez pas que ce soit la douleur de ma légère blessure qui me l'arrache. Contemplez ma consternation profonde, et ne croyez pas que je regrette ni le petit meuble démantibulé, ni les porcelaines brisées, ni la chocolatière bossuée, ni mon plus beau jupon gâté, non. Je ne vois que le chocolat coulant à grand flot sur le parquet. Pendant que je reste immobile, la comtesse, le corps à demi courbé, les yeux fixés sur le papier chéri, les mains tremblantes, la parole entrecoupée, lit. Tu conçois, chère petite nièce, que j'ai eu tant de plaisir à élever, combien j'ai souffert de ne pouvoir venir à ton mariage. Mais enfin, le parlement de Besançon m'a jugé. J'ai gagné mon procès, je pars, j'arrive aussitôt que ma lettre, j'arrive le 15. « Oh, bonne nouvelle, oh, ma chère tante, je vais vous voir, et j'en suis charmé. » À l'instant, j'aperçois sous un fauteuil un débris précieux. Je m'élance, je le saisis, je le baise et je lui dis « Oh, bon petit pain, oh, secourable reste, désormais mon unique espoir, je te tiens, et j'en suis ravi. » Cependant, je vais m'asseoir dans un petit coin où je dévore mon insuffisante proie, tandis que Madame de Lignol, tour à tour relisant et rebaisant sa lettre, fait dans son boudoir maintes et maintes gambades. Enfin, elle sonna un laquais. « Saint-Jean, dites aux Suisses que je suis aujourd'hui chez moi pour Madame d'Armincourt seulement. » Puis elle se retourna vers moi. « Mademoiselle de Brumont, je vous ai dérangé de bien bonne heure, mais vous pouvez maintenant disposer du reste de la matinée. » Je fis à la comtesse une profonde révérence qui me fut poliment rendue, et j'allais m'enfermer dans mon petit appartement. Le lecteur sait à peu près tout ce que je peux dire à ma sœur Adélaïde, à qui j'écrivis. Comme je cachetais la lettre fraternelle, arriva chez moi la femme de chambre qui venait me coiffer par ordre de sa maîtresse. « Maudit visage bourgeonné, tu ne vaux pas le déjeuner que tu me coûtes et dont tu as la couleur. » Vous concevez qu'étant naturellement poli, je ne fis pas cette réflexion tout haut. Si vous me connaissez, vous devinez aussi que, docile et prudent au même degré, je livrais ma tête et fermais les yeux. Il faut pourtant rendre justice à la pauvre Jeannette. Disgraciée de la nature, elle avait eu recours à l'art. Je lui trouvais la main assez légère et le coup de peigne moelleux. Mais combien les talents acquis valent moins que les dons naturels. Combien dans ce moment je regrettais ma petite Justine. Jeannette, quand elle eut fini ma coiffure, ne m'offrit pas ses services et je ne fis aucune tentative pour la retenir. Voyez cependant si c'eût été Justine. Justine serait restée sans attendre que je l'en priasse. D'abord, elle aura peut-être un peu retardé ma toilette. Mais avec quelle promptitude ensuite, nous aurions regagné le temps perdu. Avec quelle intelligence la droite friponne eût présidé à l'arrangement difficile des 500 babioles qui composent un accoutrement féminin presque complet. Il fallut me charger seul du pénible soin de m'habiller en femme de la tête aux pieds, trop heureux encore d'en être venu à bout après y avoir mis plus de temps et de réflexion qu'une petite fille bien paresseuse que l'on force, dans une matinée d'hiver, à s'endimancher pour aller avec sa bonne maman à l'office paroissial. Cependant, 3 heures allaient sonner. La marquise était arrivée. Monsieur de Lignol, apparemment toujours fâché, nous avait fait dire qu'il dînerait en ville. Un domestique annonça que nous étions servis. À table, la jeune comtesse m'accabla d'attention, et la vieille tante me prodigua les compliments. Leurs questions quelquefois embarrassantes, mes réponses souvent équivoques, leur crédulité, ma confiance, les louanges dont je payais leurs éloges, tout cela peut-être mériterait d'être rapporté, mais je me sens pressé de raconter le plus intéressant. « Fort bien, mon enfant, » dit Madame d'Arminecourt à Madame de Lignol. « Mais à présent, parlons des choses essentielles. Es-tu contente de ton mari ?»« Mais oui, Madame la Marquise. »« Qui appelles-tu, Madame la Marquise ? Crois-tu que je te saluerai d'un Madame la Comtesse ?»« Bon, quand il y a du monde, mais entre nous. » »« Va, tu es enfant que j'ai élevé, mon enfant chéri. » »« Dis ma tante. » Et je te dirai ma nièce. Réponds-moi, comptes-tu bientôt me donner un neveu? Je ne sais pas, ma tante. Tu n'aperçois donc pas dans ta santé des changements? Plaît-il, ma tante? Tu n'as pas eu quelques absences? Des absences? Est-ce que j'étais sujette à avoir des absences? Non pas quand tu étais jeune fille, mais depuis que tu es femme. Eh bien, les femmes deviennent-elles folles? Folles? Il est bien question de folie. Cela ne porte pas au cerveau dans ce cas-là, ma nièce. Que demandez-vous donc, ma tante? Je demande. Pourquoi donc affecter? Mademoiselle de Brumont ne doit pas te gêner, elle est ton aînée. Une fille de 20 ans, quoiqu'elle soit sage, n'ignore plus certaines choses. Je ne vous comprends pas, ma tante. Ma nièce, trouvez-vous mes questions indiscrètes? Non, sûrement. Parlez, ma tante, parlez. Écoute, mon enfant. Si je m'en mêle, c'est par intérêt pour toi. D'abord, si l'on m'avait cru, tu n'aurais pas épousé M. de Lignol. Je le trouvais trop vieux. Un homme de 50 ans. Je sais bien qu'à cet âge-là, M. d'Arminecourt était un pauvre sire, mais enfin on prétend qu'il y en a... Dis-moi, le comte remplit-il son devoir? Oh, M. de Lignol fait tout ce que je veux. Tout ce que tu veux, et tous les jours? Tous les jours. « Je t'en félicite, ma nièce, tu es fort heureuse. »« Ah ça, mais pourtant, ma petite, il faut prendre garde. »« À quoi, ma tante ?»« Il faut ménager ton mari. »« Comment ?»« Comment, ma nièce ?»« Et il ne faut pas vouloir trop souvent. »« Vouloir quoi, ma tante ?»« Ce dont il est question, ma nièce. »« Mais il me semble qu'il n'est question de rien, ma tante. »« De rien. »« Tu appelles ça rien, toi. »« Tu ne sais donc pas qu'à l'âge de M. de Lignol... » Allez, ce train-là, c'est s'épuiser. S'épuiser? Sans doute. Il y a des fatigues que les femmes supportent, mais auxquelles les hommes ne résistent pas. Des fatigues? Assurément. Et puis vos âges sont très différents, ma nièce. Mais que fait l'âge? Eh bien, ma nièce, je trouve cela fort heureux, mais je te le répète, il faut user de ta raison. Ton mari n'est pas jeune, tu le tueras. » Voilà ce que je n'entends pas, ma tante. Comment ? Vous n'entendez pas qu'un homme de 50 ans ne peut, sans exposer sa vie, satisfaire une jeune femme dont les appétits sont immodérés ? Il ne s'agit pas d'appétit, ma tante. Les désirs, si vous voulez. Et qui vous dit que mes désirs sont immodérés ? Vous-même, ma nièce, puisque vous prétendez que vous devez être la maîtresse sur ce point. Eh bien, ma tante, et que tous les jours, vous forcez votre mari à faire une sottise. En vérité, ma tante, je vous trouve aujourd'hui d'une humeur. Voilà bien les jeunes femmes, quand on les contrarie sur cet article, ma tante, voulez-vous ? Cela seul est pour elle le souverain bien. Voulez-vous me forcer à quitter la place ? Je conviens que c'est une des grandes douceurs de la vie. Oh, que je m'impatiente. Oui, oui, ma nièce. Je n'ignore pas que vous êtes très vive, mais enfin, je suis votre mère, il faut m'écouter. Mon Dieu ! Non pas, non pas, retenez et écoutez-moi. Je veux que vous me promettiez de ne plus obliger M. de Lignol à faire tous les jours ce que vous appelez votre volonté. Et pourquoi donc, ma tante ? Me laisserai-je gouverner un jour plutôt qu'un autre ? Le beau raisonnement, ma nièce. Pourquoi ne ferai-je point aujourd'hui ce que j'ai fait hier ? Mais avec cette belle manière de calculer, ma nièce, il n'y aura pas de raison pour que cela ne finisse jamais. C'est aussi comme je l'entends. Je prétends bien que cela ne finisse pas. Que répond-elle donc ? Vous direz tout ce que vous voudrez, ma tante. Je ne souffrirai pas que mon mari me manque. Voyez les cervelets. Ni qu'il me mène. Mais quel galimatia ! Moi, je ne l'empêche pas de se conduire à sa manière. Elle perd la tête. Mais qu'il me laisse de mon côté faire tout ce qu'il me plaira. Comment ? De votre côté ? Cela ne se peut pas. Ce n'est qu'avec son mari qu'une honnête femme... Avec lui, quand ça me convient, avec un autre, si cela m'arrange mieux. Fi, ma nièce, quel principe ! L'essentiel est qu'il ne me gêne en rien. Ma nièce, je ne vous comprends pas. Et que je fasse en tout ma volonté. Ma nièce, vous voulez donc que je m'en aille ? Ma tante, vous voulez donc que je quitte la place ? Cela est insupportable. Cela est désespérant. Conduisez-vous par mes conseils, ma nièce. Parlez-moi raison, ma tante, je ne suis plus une enfant. Toutes deux s'étaient levées, toutes deux se fâchaient. Cependant, aux questions très claires de la tante, la nièce avait fait avec tant d'innocence et de vérité des réponses si ingénues, si équivoques, si extraordinaires, que je commençais à soupçonner d'étranges choses. J'essayais de calmer Madame d'Armincourt en lui disant « Il y a tout lieu de croire, madame, que Madame la Comtesse n'est pas infiniment heureuse dans le sens que vous l'entendez, et maintenant je gagerai qu'elle est aussi loin de mériter vos reproches que de les comprendre. « Vous croyez ? » répliqua-t-elle. « Eh bien, questionnez-la, mademoiselle de Brumont, et voyons si vous pouvez en tirer quelque éclaircissement. » Je m'adressai à la nièce. « Madame la Comtesse, permet-elle ? » Elle m'interrompit vivement. « Très volontiers, mademoiselle. » Monsieur de Lignol couche-t-il dans l'appartement de Madame la Comtesse ? Non, jamais. Y vient-il le matin ? Oui, quand je suis levé. S'enferme-t-il pendant la journée avec Madame la Comtesse ? Non. Le soir, reste-t-il un peu tard chez Madame la Comtesse ? Après le souper, 5 minutes, tout au plus. Ces 5 minutes, à quoi les emploie-t-il ? À me dire bonsoir. Comment dit-il bonsoir à Madame la Comtesse ? En m'embrassant. Comment embrasse-t-il Madame la Comtesse ? Comme on embrasse, il me donne quelques baisers. Où cela, Madame la Comtesse ? Dame, où cela se donne, mais encore. Sur le front, sur les yeux, sur le menton. Voilà tout, voilà tout. Absolument, absolument. Que voulez-vous de plus ? Eh bien, Madame la Marquise, qu'en dites-vous ? Je pense, répondit-elle, que cela serait bien incroyable et bien affreux. » Elle courut promptement à Madame de Lignol. « Dis-moi, ma nièce, es-tu femme ou fille ? Femme, puisque je suis mariée. Es-tu mariée ? Certainement, puisque M. de Lignol m'a épousée. Êtes-vous sûre, ma nièce, qu'il vous a épousée ? Je vous le demande, ma tante. Où t'a-t-il épousée ? À l'église. Et pas ailleurs. Est-ce qu'on épouse ailleurs, ma tante ? Dis-moi, ma petite, le jour de tes noces. Bah, je suis bien fâché de n'avoir pas pu me trouver à Paris le jour de tes noces. Je me défiais de ce monsieur de Lignolles et de ses 50 ans. Il m'avait l'air de n'avoir pas le sens commun. J'avais très expressément recommandé qu'on te donnât au moins quelques instructions préliminaires. Dis-moi, ma chère enfant, la nuit de tes noces, que t'est-il arrivé ?
Rien, ma tante.
Rien ? Mademoiselle de Brumont, la nuit de ses noces, il ne lui est rien arrivé.
Pauvre petite, ajouta la bonne tante en pleurant. Pauvre petite, que je te plains.
Mais réponds-moi, la nuit de tes noces, ne s'est-il pas mis au lit près de toi, ton mari ?
Oui, ma tante.
Eh bien, après ?
Après, ma tante, il m'a souhaité une bonne nuit et il s'en est allé.
Et il s'en est allé. Il s'en est allé, répéta la marquise qui fondait en larmes.
Il s'en est allé. Ah, ma charmante petite nièce, ta jolie figure ne méritait pas cela.
Bon Dieu, ma tante, vous m'inquiétez.
Pauvre enfant, la voilà vierge encore, après 2 mois de mariage. Quel sort cruel.
En vérité, ma tante, vous me faites peur. Expliquez-vous.
Mon enfant, je ne puis. Je ne puis. Ma douleur me suffoque.
Vous, mademoiselle de Brumont, qui vous exprimez avec tant de facilité, dites-lui ce que c'est, expliquez-lui comment. Vous n'êtes pas ignorante comme elle, sans doute, vous devez savoir.
À peu près, madame la marquise, j'en ai entendu parler et puis j'ai lu de bons livres.
En ce cas, faites-moi le plaisir de la mettre au fait.
Madame la comtesse permet-elle ?
Elle me répondit que je lui rendrais service.
Je ne me le fis pas répéter.
Je lui dis... Mais je lui dis parce qu'elle ne le savait pas.
Or donc, à vous qu'il savait, je ne vous le dirai pas.
Quoi ? Reprit madame de Lignolles, émerveillée de ce qu'elle venait d'entendre.
Quoi ? Vous ne plaisantez point ?
Je ne prendrai pas cette liberté avec madame la comtesse.
Quoi, ma tante ?
Tout ce que mademoiselle de Brumont vient de dire est vrai ?
Très vrai, ma nièce.
Et c'était même le fit à expliquer tout cela, comme si elle n'avait fait autre chose de sa vie.
Ainsi, depuis 2 mois, monsieur le comte aurait dû m'épouser de cette manière, ma tante.
Oui, ma pauvre enfant, depuis 2 mois, monsieur le comte t'insulte.
Il m'insulte.
Oui, tu ne sens pas cela ?
Ma tante, je vois seulement qu'il a perdu beaucoup de temps.
Il t'insulte, ma nièce.
Négliger tes charmes, c'est leur faire outrage.
C'est dire qu'ils ne méritent pas d'être subjugués. Te laisser vierge, c'est te faire sentir, de la façon la plus cruelle, que ta fleur ne vaut pas la peine qu'on se donnerait à la cueillir.
Oh, oh !
Te laisser vierge, ma pauvre petite, de toutes les humiliations auxquelles une malheureuse femme puisse être exposée, tu éprouves aujourd'hui la plus grande.
Ce n'est pas possible.
Trop possible, ma chère enfant, trop possible. Te laisser vierge, c'est te déclarer qu'il te trouve bête, maussade, dégoûtante.
Grand Dieu ! Ma tante, vous n'exagérez pas.
Demande, ma petite, demande à mademoiselle de Brumont.
Aussitôt, je pris la parole, et m'adressant à la jeune femme outragée,
assurément, par cet abandon que je ne conçois pas, monsieur le comte signifie très positivement à madame la comtesse qu'elle est laide.
Laide ? Il en a menti. Je ne cache pas mon visage. Ainsi,
qu'elle n'est pas bien faite.
Il en a menti. Voyez ma taille, est-elle mal prise ?
Qu'elle a le bras carré.
Il en a menti. Attendez que j'ôte mon gant.
Un grand vilain pied.
Il en a menti. Me voici déchaussée.
La jambe grosse.
Il en a menti. Voyez.
La gorge plate.
Il en a menti. Regardez.
La peau rude.
Il en a menti. Tâtez.
Le genou cagneux.
Il en a menti. Jugez vous-même.
J'aimais la manière franche et décisive dont la comtesse repoussait les imputations calomnieuses de son mari, que je me plaisais à faire parler. Curieux d'essayer jusqu'où le juste désir d'une justification très facile emporterait cette femme si vive, j'ajoutais « C'est lui dire enfin qu'elle a quelque difformité secrète. » Un geste expressif que fit madame de Lignolles, un geste aussi prompt que sa pensée, m'annonça qu'elle allait encore donner la preuve justificative en même temps que le démenti formel. Madame d'Armincourt aussi devina très aisément le dessein de la comtesse et, malheureusement pour moi,
qui le trouvait louable, elle a couru assez tôt pour empêcher l'entière exécution.
« Va, ma chère amie, ce n'est pas la peine, » dit-elle à sa nièce. « Moi, qui depuis ton enfance ne t'ai pas perdu de vue, je sais qu'il n'en est rien. Mademoiselle de Brumont s'en rapporte à toi. Au reste, il ne faut pas non plus te fâcher si fort.
Ne pas me fâcher.
Ton mari est un impudent, un menteur.
N'est peut-être pas si coupable,
un insolent.
Que nous l'imaginions d'abord, un lâche. Il se peut qu'une longue indisposition...
Il n'y a pas d'indisposition de 2 mois.
Ou quelque chagrin pour un homme,
ou quelque grand malheur.
Ou le progrès de la philosophie.
Ou quelque travail important.
Des charades.
Tenez, ma tante, ne le défendez pas, car vous maigrissez.
Je conçois maintenant toute l'indignité de sa conduite. Et dès qu'il rentrera,
laissez-moi faire. Il s'expliquera.
Il me rendra compte de ses motifs.
Il me fera raison de l'outrage.
Il m'épousera sur l'heure,
où nous verrons.
Cependant, le jour commençait à tomber. Ce ne fut pas sans peine que j'obtins de la comtesse un moment de liberté. J'allai m'enfermer dans ma chambre, où je n'attendis pas longtemps M. de Valbrun. Le vicomte m'apprit qu'un homme sûr, chargé d'aller à l'hôtel de B remettre à Mme la marquise elle-même la lettre de Justine, avait rapporté cette réponse. « Celle qui vous envoie me fait grand plaisir. Je n'étais pas tranquille sur le sort de la personne dont elle me donne des nouvelles. Dites qu'elle peut continuer de m'instruire de la situation des affaires de cette personne à laquelle je m'intéresse véritablement. Vous pouvez ajouter que Mme de B, qui d'abord m'avait assez mal reçu, vient de reconnaître ses torts et d'en obtenir le pardon. Ce n'est pas un secret, elle est bien la maîtresse de le dire à quiconque peut m'en féliciter. » M. de Valbrun ajouta, « Madame de Fontrose est maintenant allée au couvent de Madame de Faublas. Demain matin, avant 8 heures, je vous dirai ce que nous avons fait. » Après avoir remercié le vicomte, comme je le devais, je lui remis mes 2 lettres. Je le priai d'envoyer l'une au couvent d'Adélaïde et de faire mettre l'autre à la grande poste. Il voulut bien, en me quittant, m'assurer qu'il allait tout à l'heure faire lui-même les 2 commissions. Fatale lettre à M. de Bellecour. N'aurais-je pas dû prévoir tous les chagrins que tu pouvais me causer ?